Excellent réveil à tous sur France Culture. Voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. À quoi ressemblera l'après-confinement, saison 2, les fêtes de fin d'année, à quand la réouverture des commerces non essentiels? Emmanuel Macron va présenter sa stratégie la semaine prochaine, mais déjà hier soir, devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, le Premier ministre est passé sur le grill.
Évoquant les étapes d'après décembre, réouverture des clubs de sport, etc. Et la question la plus sensible désormais, qui vacciner et quand?
Alors que les laboratoires rivalisent de solutions, l'exécutif ne veut pas répéter le fiasco de la campagne de vaccination contre la grippe H1N1 en 2009.
Et puis à la une, encore des milliers de manifestants de Paris à Marseille en passant par Rennes et Lyon pour dénoncer les atteintes à la liberté dans la loi sécurité globale examinée à l'Assemblée.
À la une à l'étranger, les États-Unis vont réduire de moitié le nombre de leurs troupes en Afghanistan et en Irak d'ici janvier. Donald Trump, qui avait promis de mettre fin aux guerres sans fin, laisserait derrière lui le plus faible contingent américain en deux décennies de guerre.
Et puis dans 10 minutes, Catherine, la question du jour, pourquoi la fonction publique n'est-elle plus attractive? Je poserai la question à Elsa Pilichowski, elle est directrice de la gouvernance publique à l'OCDE.
La crise sanitaire, une fois de plus, au menu du Conseil de défense ce matin à l'Élysée et du Conseil des ministres. Si l'exécutif ne donne pas officiellement de projection à plus de 2 semaines pour préparer la rentrée de janvier tout de même et pour ne pas être en retard par rapport à d'autres pays comme la Belgique qui veut donner un vaccin gratuit ou plutôt à 70% de sa population. À Paris aussi, le gouvernement est dans les starting blocks, a déclaré hier son porte-parole Gabriel Attal. Pour accompagner cette stratégie, la Haute Autorité de Santé lance une consultation publique en ligne pour recueillir les avis de tous ceux qui sont concernés par une campagne de vaccination, des spécialistes aux institutions publiques et privées en passant par les entreprises et les associations de patients. Consultation par voie électronique jusqu'à la fin du mois. Après des ratés sur les masques et les tests, personne ne veut rater la marche du vaccin, Cécilia Arbona.
Recommandation numéro 1 de la Haute Autorité de Santé, ne pas rendre obligatoire ni générale la vaccination contre le SARS-CoV-2, ne pas répéter le fiasco de la campagne de vaccination nationale contre la grippe H1N1 en novembre 2009. Cette injonction faite aux Français d'aller tous courir se faire vacciner avait été un échec. Aujourd'hui, face à la méfiance que suscite la promesse des premiers vaccins, il faut rassurer la population et être transparent avec elle, sur l'efficacité et la sécurité des produits, avant et après leur mise sur le marché, le bénéfice risque, les effets indésirables ou encore la gestion des stocks. Autre préoccupation de la Haute Autorité de Santé, garantir une répartition équitable de l'accès aux soins pour tous. Il conviendrait là d'envisager de vacciner en ambulatoire ou encore d'élargir les compétences des infirmiers et des pharmaciens qui pourraient venir en soutien des médecins traitants, ce qui permettrait d'atteindre une couverture vaccinale optimale dans les populations cibles, les populations les plus fragiles, les plus exposées à des formes sévères de la maladie.
Et le gouvernement aurait pré-réservé 90 millions de doses de vaccins auprès de 7 fournisseurs pour une livraison au premier trimestre 2021. L'idée de nommer un référent fait également son chemin, un monsieur ou madame vaccin, comme il y en avait eu un pour déconfiner. Au printemps dernier, ce monsieur déconfinement s'appelait Jean Castex. Aujourd'hui, Premier ministre, il a dû s'expliquer sur sa politique actuelle et passée. 2h30 d'audition hier soir devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le Covid-19. Audition suivie par Antoine Marette.
C'est un Premier ministre sur la défensive qui se débat face à cette commission. Les oppositions sont multiples. À droite, c'est Éric Ciotti qui ouvre le bal. Il reproche à Jean Castex un reconfinement trop tardif.
On voit bien que début septembre, tous les indicateurs se dégradent. Est-ce que rétroactivement, il n'y a pas eu un temps de retard dans cette prise de décision?
Jean Castex justifie son calendrier. S'il a hésité à reconfiner, c'est la faute aux scientifiques.
Les discours scientifiques n'ont jamais été particulièrement unanimes et convergents. Lorsqu'on est décideur public, on aimerait bien s'adosser à des conseils scientifiques précis, convergents. Unanime.
Plus tard, face au député socialiste Boris Vallaud, il confesse du bout des lèvres une erreur d'appréciation au printemps dernier alors qu'il était chargé du déconfinement.
Peut-être effectivement que nous avons déconfiné un peu trop. Peut-être aussi que le peuple français a cru que cette épidémie était derrière nous.
Mais celui qui est accusé d'avoir déconfiné trop, puis reconfiné trop tard, se ravise aussitôt.
Le but, c'est pas de savoir si on a surestimé, sous-estimé. Personne, mais qui l'a bien estimé? Qui l'a bien estimé? Si vous me dites qui l'a bien estimé, je suis preneur. Est-ce que les Italiens, est-ce que les Espagnols, est-ce que les Allemands ont estimé ce qui s'est passé? Non.
Une audition de plus de 3 heures sans éclat pour un Premier ministre qui semble constamment peser le pour et le contre de chaque mesure. Une exception peut-être, ce moment furtif pendant lequel Jean Castex affiche sa priorité, éviter d'abord et avant tout les morts et ensuite seulement maintenir l'économie.
Inquiets de la crise économique, stressés par la crise sanitaire, les Français ne vont pas bien du tout. 2 fois plus de dépressions recensées entre fin septembre et début novembre. C'est ce qu'a relevé hier le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Cette hausse s'observe dans l'ensemble de la population, mais elle est encore plus marquée chez les précaires, les inactifs et les jeunes, et chez toutes les personnes qui avaient des antécédents dépressifs ou anxieux. L'UMI, l'Union des métiers de l'hôtellerie-restauration, va déposer aujourd'hui un recours devant le Conseil d'État contre le qui entérinent la fermeture de leurs établissements. L'organisation patronale estime être victime d'une rupture d'égalité alors que la restauration collective a, elle, encore le droit de travailler. Il faut agir vite car l'avenir est bien sombre selon Laurent Barthélémy, président de l'UMI Nouvelle-Aquitaine.
Il y a vraiment des drames humains qui se préparent et la grogne monte énormément. Il faut savoir juste que certains chefs d'entreprise ont mis toutes leurs économies, ont mis toute leur vie dedans et en l'espace d'un an, on va détruire ces villas. Les grands absents sont là, les banques qui n'ont pas encore donné de réponse définitive sur les taux de remboursement des PGE, parce que le gouvernement a la volonté de faire 2,5%, mais on n'a aucune certitude des banques, et bien évidemment les assureurs qui sont les plus grands absents et qui ne prennent pas du tout leur part et leur responsabilité dans cette crise-là. Donc voilà, on ne pourra pas nous, à un moment donné, tout seul, responsables patronaux, tenir l'ensemble de nos ressortissants, parce que tout naturellement, la colère monte et qu'ils veulent l'exprimer, oui. Il y aura certainement des manifestations prévues dans les semaines à venir pour dire qu'on n'est pas content, et il vaut mieux qu'on soit ouvert à travailler, à payer nos taxes, à payer nos impôts, à payer notre TVA, plutôt que de rester fermé. Et on ne demande pas l'aumône, on demande juste à travailler.
Laurent Barthélémy, à la tête de l'Union des métiers de l'hôtellerie-restauration Nouvelle-Aquitaine, il répondait à Anne-Laure Jumet. L'exécutif donnera aux restaurateurs des perspectives au début du mois de décembre, mais pour l'instant, aucune décision prise sur un calendrier, a indiqué Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement hier. Blablacar ne va pas relancer son offre de bus en Europe avant le printemps 2021, préférant se concentrer sur le covoiturage en cette période de reconfinement.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Alors que la loi dite de sécurité globale commençait à être examinée hier à l'Assemblée, plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Lyon, Grenoble, Toulouse, Bordeaux, Marseille et Rennes.
Ainsi qu'à Paris, en réponse notamment à l'appel de syndicats de journalistes et d'associations de défense des droits de l'homme, ils voient une entrave à la liberté d'informer dans la proposition de loi qui veut interdire la diffusion des visage des forces de l'ordre, le reportage de Laura Dulieu.
C'est Harry Halimi, le président de la Ligue des droits de l'homme, l'un des organisateurs du rassemblement, qui souligne l'ironie de la situation.
C'est un peu une mise en abîme ce soir, parce que vous avez des journalistes qui filment des journalistes en train de se rassembler pour la liberté de la presse. L'objet de cette loi, c'est d'empêcher le fonctionnement du journalisme et des vidéastes amateurs et empêcher les victimes de violences policières d'obtenir justice. Les policiers ne veulent pas être filmés parce qu'ils ne veulent pas être sous le regard et des journalistes et du contrôle citoyen.
Mais il n'y avait pas que des journalistes sur place. Plusieurs dizaines de gilets jaunes étaient aussi là. Quelques huées ont été entendues, notamment lors des prises de parole ou du rappel des consignes sanitaires par les organisateurs. Valentin est journaliste, reporter d'images, présent pour défendre son métier. Il regrette l'opposition entre journalistes et gilets jaunes.
Comme moi, je couvrais les violences policières, notamment lors des manifestations de gilets jaunes. J'avais pas l'impression d'être soutenu par eux quand je le faisais. Alors qu'eux, ils étaient bien contents qu'on le fasse, quoi.
À partir de 18h, la place Édouard Herriot se remplit massivement de manifestants jusqu'au boulevard Saint-Germain. Parmi eux, Marine, pas une grande habituée des manifestations, mais celle-ci est importante à ses yeux.
Déjà, les gens qui subissent les violences policières aujourd'hui, les seules preuves qui leur restent, c'est les vidéos. Et encore, ils ont du mal au tribunal à avoir gain de cause et tout ça. Donc si on leur supprime en plus les vidéos, les violences policières, elles resteront impunies.
Et les forces de l'ordre ont dispersé les manifestants dans la soirée, non sans quelques échauffourées. Des gaz lacrymogènes et des canons à eau ont été utilisés.
Reportage de Laura Dulieu. Stationnement payant des deux roues, hausse de la taxe d'habitation des résidences secondaires et des taxes de séjour sur les plateformes. La maire de Paris, Anne Hidalgo, veut augmenter de nombreuses taxes afin de boucler son budget pour 2021 avec une dette de plus de 7 milliards d'euros. Il est 7h10 sur France Culture. Il persiste à contester sa défaite à la présidentielle du 3 novembre, mais continue de montrer qui est le maître de la Maison-Blanche. Donald Trump a limogé hier le patron de l'agence gouvernementale en charge de la sécurité des élections. Lui défend la probité du scrutin quand le président sortant crie à la fraude. Donald Trump, toujours au pouvoir donc jusqu'au 20 janvier prochain, il veut aussi accélérer le départ des troupes américaines d'Irak et d'Afghanistan. L'état-major va rapatrier près de 2500 soldats. Une mesure contestée en interne par l'ancien secrétaire à la Défense, Mark Esper, finalement licencié il y a 8 jours. L'annonce a donc été faite hier par son successeur, incapable pour autant d'éteindre les craintes des spécialistes, Grégory Phillips.
Dans une courte déclaration, le secrétaire à la Défense, Christopher Miller, confirme le retrait de 2000 soldats américains d'Afghanistan et 500 autres vont quitter l'Irak. C'est conforme, dit le patron par intérim du Pentagone, à nos plans et à nos objectifs stratégiques.
C'est une très mauvaise nouvelle.
Brett Bruen a été, sous administration Obama, membre du Conseil national de sécurité.
Et j'ai travaillé en Irak, j'ai travaillé à Tikrit. J'ai vécu l'expérience de laisser le pays dans les mains d'un gouvernement irakien, mais avec un an d'anticipation. Cette fois-ci, on parle de 2 mois. C'est vraiment irresponsable.
Des cadres militaires s'inquiètent aussi des risques que ces départs vont créer dans des pays encore instables, et notamment pour la sécurité des troupes américaines qui resteront sur place.
On ne peut pas faire le travail, surtout en Afghanistan, avec ces 2500 soldats. On ne peut pas protéger même nos diplomates, nos soldats en mission qu'il faut faire en dehors de Kaboul. C'est, à mon avis, une erreur qui nous allons payer dans les prochaines années.
Donald Trump avait promis le retour des boys à la maison et la fin de ces guerres coûteuses et interminables. Il prend une demi-mesure bien plus politique que stratégique.
Grégory Phillips à Washington pour France Culture. L'ambassade des États-Unis à Bagdad, visée hier par 4 roquettes, elles se sont abattues dans la zone verte de la capitale irakienne. Alors que le secrétaire d'État américain Mike Pompeo doit atterrir cet après-midi à Tel Aviv, l'autorité palestinienne a annoncé hier soir qu'elle relançait la coopération sécuritaire avec Israël, un rétablissement comme un cadeau de bienvenue à Joe Biden. L'élection du démocrate va-t-elle changer la donne à la frontière entre les États-Unis et le Mexique? C'est le thème du reportage de la rédaction à suivre à 7h25 sur France Culture. Quelques mots du temps de ce mercredi 18 novembre, partagé entre grisaille et éclaircie dans la moitié nord du pays, plus ensoleillé au sud. Au meilleur de la journée, il fera entre 11 et 18 degrés au nord, comptez de 15 à 25 au sud, Guillaume Herner.
Merci Catherine Dutu. Dans quelques instants, la question du jour, pourquoi la fonction publique n'est-elle plus attractive?